Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Blaise Nelkamadi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal, la MONUSCO salue les avancées enregistrées en Montreux en Suisse lors de la 9e phase des discussions entre le gouvernement congolais et l'FC-M23. Elle met en avant des avancées vers la signature du protocole sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire, tout en exhortant les parties à conclure rapidement cet accord afin de soulager les populations affectées. Nous parlerons aussi de cette flambée des cas suspects de choléra dans trois aires de santé de Walikale dans le Nord Kivu. Le médecin chef de zone de santé de Kibwa qui alerte sur cette maladie affirme que depuis le 9 mars dernier, 56 cas ont déjà été enregistrés avec 6 décès. L'invité de ce journal, c'est le directeur général de la Régie des eaux, David Chilumba, qui donne espoir à la population du Maniema de doubler la production pour permettre à cette population d'avoir accès facile à l'eau potable de la Régie des eaux dans toute la province. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. La MONUSCO salue les avancées enregistrées en Montreux, en Suisse, lors de la 9e phase des discussions entre le gouvernement congolais et l'FC-M23 dans le cadre du processus de Doha. Des progrès jugés encourageants, notamment sur les questions humanitaires et les mesures de confiance. Dans son communiqué publié le 19 avril, la mission onusienne appelle les parties à maintenir cet élan afin de parvenir rapidement à des résultats concrets sur le terrain et insiste sur la mise en place d'un mécanisme crédible de suivi du cessez-le-feu. Les détails avec Martial Papimoukeba.
La MONUSCO met en avant des avancées vers la signature du protocole sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire, tout en exhortant les parties à conclure rapidement cet accord en fait de soulager les populations affectées. Elle se félicite également des engagements pris en faveur d'un accès humanitaire rapide, sûr et sans entrave, dans le respect du droit international, ainsi que des mesures visant à protéger les civils et les infrastructures essentielles. La mission encourage par ailleurs la poursuite des mesures de confiance, notamment la libération et l'échange des détenus avec l'appui du Comité international de la Croix-Rouge. Autre avancée, la signature d'un mémorandum d'entente avec la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs ouvra la voie à l'opérationnalisation du mécanisme conjoint élargi de vérification du cessez-le-feu. Présente comme observateur, la MONUSCO s'est dit prête à appuyer les premières missions de vérification, mais rappelle que certaines conditions restent indispensables, notamment la fin de l'usage des drones offensifs, du brouillage des signaux GPS, ainsi que la liberté des mouvements de son personnel. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Pendant ce temps, en Ituri, les habitants des chefferies de Walese, Vonkutu et de Basili reprennent progressivement leurs activités, notamment agricoles, dans les territoires d'Irumu. Cette accalmie est attribuée aux opérations conjointes menées, d'une part par les FARDC et l'armée ougandaise UPDF, et d'autre part les FARDC et le casque bleu de la MONUSCO. Selon des sources locales, ces actions ont permis de réduire les menaces des ADF dans la zone. Des acteurs de la société civile saluent cette collaboration, tout en appelant à poursuivre les opérations pour démanteler complètement des groupes armés. Isaac Remoyo peut nous en dire plus.
Une accalmie s'observe dans plusieurs localités du territoire d'Irumu. C'est notamment le cas à Komanda dans la chefferie de Basili, mais aussi à Bavonkutu, Bamande et Mungamba dans la chefferie voisine de Walese Vonkutu. De nombreux habitants qui avaient fui ces entités commencent à regagner leur village. Ils reprennent librement leurs activités, notamment l'agriculture et l'exploitation du bois. Le trafic sur l'axe Komanda-Yedi, reliant les territoires d'Irumu et de Mambasa, est désormais fluide sans menace signalée. Selon l'administrateur du territoire, des patrouilles conjointes et FARDC MONUSCO sont régulièrement organisés pour assurer la protection des civils, le colonel Siro Simba. Les patrouilles avec les FARDC et les casques bleus les font. J'ai récit des témoignages qu'ils continuent à les faire. La société civile locale se félicite également de cette amélioration sécuritaire. Cependant, elle appelle les forces engagées à poursuivre les opérations, notamment à profondeur dans la forêt, afin de garantir une paix durable. Christophe Mounyanderou, acteur de la société civile.
Nous avons au moins des témoignages
témoignage de la présence des casques bleus dans notre zone, la demande de la population est de voir que les casques bleus puissent monter en puissance dans la traque de ces terroristes ADF. Elle doit imposer la paix dans toutes les parties menacées par ces terroristes ADF.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Alimenté ici à Kinshasa, dans le quartier Mombéli, des arrestations de jeunes par la police suscitent l'indignation. Accusés de vagabondage nocturne, ces jeunes affirment que leur libération est conditionnée au paiement de fortes amendes. Une situation dénoncée par les victimes et leurs proches. Contactés, la hiérarchie policière dit ne pas être informée et promet d'ouvrir des enquêtes. Reportage signé Magloire Landou Mayemba.
À Mombélé, dès la tombée de la nuit, la peur gagne plusieurs habitants. Les rues se vident et tout le monde se sauve. La raison est bien simple, les jeunes ne veulent pas tomber dans les filets de la police qui, d'après eux, les arrêtent sans raison valable. Quelques-unes des victimes s'expriment.
Je rentrais chez moi et arrivais au coin de notre avenue vers 19h, j'ai rencontré deux hommes en civil. Ils m'ont immédiatement arrêté. Lorsque j'ai essayé de me libérer de leur emprise, ils ont commencé à me frapper. D'autres policiers sont arrivés. Ils m'ont ensuite amené au sous-commissariat. Ils m'ont exigé de payer 80 000 francs congolais, sinon ils allaient me transférer à l'échangeur.
Nous ne comprenons pas le comportement de nos policiers. Quand ils procèdent à ces arrestations, les gens s'énervent et on voit souvent de tirs. C'est ainsi qu'une de mes amies est morte à cause d'une balle perdue. Nous parlons, mais nous ne voyons aucune réaction. D'après le jeune du quartier, le policier mis en cause travaille avec deux personnes en tenue civile qui sont envoyées en éclaireur auprès de jeunes passants avant qu'eux ne surgissent pour mettre la main sur eux et les amener au poste de police où ils sont obligés de payer avant leur libération. Contacté, un des responsables de la police dit ne pas être informé de la situation et demande aux victimes de dénoncer tous ces cas afin de lui permettre de se documenter et d'en faire un suivi pour les décourager.
Je le disais en titre, au Nord Kivu, le médecin chef de zone de santé de Kibwa dans les territoires de Walikale alerte sur la flambée des cas suspects de choléra dans trois aires de santé de son entité. Depuis le 9 mars dernier, 56 cas ont déjà été enregistrés avec 6 décès. Selon cette autorité sanitaire, les enfants de plus de 5 ans sont parmi les personnes les plus touchées par cette maladie favorisée par le mouvement des populations en provenance du territoire voisin de Masisi et qui fuit les affrontements entre les rebelles de l'FCM-23 et les combattants Wazalendo. Le docteur Yves Tsongo Bikunde lance un appel à l'aide aux partenaires pour faire face à cette situation alarmante. Bernardine Diambo pour les détails.
Il s'agit des aires de santé de Ntoto, Langira et Kilungu de la zone de santé de Kibua. Pour les médecins chefs des zones, ces trois aires ne disposent pas des intrants de prise en charge ni des mesures de prévention. Le manque d'eau, d'hygiène et d'assainissement, y compris des toilettes hygiéniques, sont des facteurs qui favorisent la propagation de la maladie. Face à cette flambée des cas de diarrhée, le médecin chef des zones dit avoir dépêché sur place un infirmier superviseur pour des investigations poussées. Le docteur Yves Tsongo Bikunde.
Nous avons dépêché un infirmier superviseur pour investiguer et il a confirmé que les cas répondent à la définition des cas de choléra. Et aujourd'hui, on a enregistré 56 cas et 6 décès, dont 25 cas et 3 décès à Langira, 24 cas et 2 décès en Toto, 7 cas et 1 décès à Kilungu. Ce qui est alarmant. Nous avons quand même fait une prise en charge des cas, malgré que les intrants sont insuffisants. C'est pourquoi nous lançons un cri d'alarme sur nos partenaires pour essayer de nous appuyer.
De reste déjà, la Croix-Rouge a décontaminé certains ménages et renforcé la sensibilisation de la communauté. En attendant une réponse des autorités compétentes, les acteurs locaux insistent sur le respect strict des mesures préventives. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Dans un autre registre, la ville de Kalemi est en proie des inondations provoquées par les eaux du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga, surtout en période pluvieuse. D'après la nouvelle dynamique de la société civile Chumvia Congo du Tanganyika, cette année l'ampleur des inondations n'est pas comme celle des années antérieures. Cette structure citoyenne note que cette année, les dégâts sont de moindre ampleur que ceux enregistrés les années précédentes. Le point avec Paulin Munanga.
Cette année, des inondations sont signalées à différents endroits de la ville de Kalemi. C'est notamment au quartier Kamko et Dav. Chirac Issa est le coordonnateur provincial adjoint de la nouvelle dynamique de la société civile Chuvia Congo du Tanganyika.
Dans la commune de Kalemi, au sein du quartier Kamko, où au moins 90% de la population était obligée d'abandonner leurs habitations habituelles. Les mêmes situations sont semblables au sein de la commune d'Ilak, dans les quartiers d'Ave, où toutes les maisons qui ont été abandonnées par les gens sont restées vides.
Le boulevard Lumumba, principale artère de la ville de Kalemie, est régulièrement inondé à certains endroits pendant la période pluvieuse. Pour rappel, en 2024, la ville de Kalemie avait connu l'une des graves inondations. La montée des eaux du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga à la faveur des pluies diluviennes avait causé d'importants dégâts matériels et il y a eu plusieurs déplacés. Des habitations riveraines du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga ont été envahies par les eaux et abandonnées par leurs propriétaires. Des écoles ont été délocalisées, des églises, des hôtels, des routes et d'autres infrastructures n'ont pas été épargnées. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Revenons dans la capitale, le directeur général de l'agence de pilotage de coordination et de suivi des conventions de collaboration APCSC a relevé les avancées significatives dans les travaux de construction de routes de rocade à Kinshasa. Freddy Chembo a fait ce constat à l'issue d'une ronde effectuée ce samedi sous la conduite d'une équipe de l'agence congolaise des grands travaux ACGT. Il a jugé important que le projet des rocades nord soit rapidement mis en œuvre afin de contribuer au désengorgement de la ville de Kinshasa. Les propos de Freddy Chembo recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Sauf les 4 premiers kilomètres du point de départ de la rocade sud-ouest, le reste est vraiment dans un état d'avancement très évident et le côté est est aussi en train d'avancer parce que là il y a moins de contraintes d'expropriation et tout. Surtout, on n'allait pas se retrouver à cause de l'ampleur du travail qui a été abattu. Il était important qu'on communique, c'est autre chose de voir ce projet dans le confort de nos bureaux climatisés, un rapport sur papier, mais le voir, ça a fait de la chair de poule. C'est vrai que dans le cadre du programme sino-congolais, dans l'état actuel de notre programmation, on n'a pas encore programmé la rocade nord. Nous sommes engagés sur la rocade sud, mais c'est une ambition que nous nourrissons. On ne va pas arrêter les efforts pour chercher d'autres partenaires intéressés. Il est absolument important que la rocade nord soit aussi faite. Parce que c'est ce qui va donner le sens à ce que nous faisons aujourd'hui. Et ça va désengorger la ville en termes de fluidité, de trafic. Et ça va créer, comme nous avons dit depuis le départ, beaucoup de vie dans la périphérie, dans les zones qui jusque-là étaient oubliées de notre grande métropole quinoise.
La CGT assure que toutes les batteries sont mises en œuvre pour que ces routes de rocade soient remises à la population utilisatrice d'ici fin 2027. Inauguré en janvier dernier, le nouveau campus de l'université de Kananga, UNICAN, n'est toujours pas occupé. Une situation qui suscite des inquiétudes au sein de la population. Dans une interview qu'il nous a accordée, les recteurs intérimaires de l'UNICAN apportent des éclaircissements. Renatus Bakenga indique que ce retard est dû à des procédures administratives. Il rassure les étudiants ainsi que l'ensemble de la population. L'occupation du nouveau campus interviendra dans les tout prochains jours. Suivez Renatus Bakenga au micro d'André Katende.
Pour nous, il n'y a pas blocage. Il y a seulement respect des normes. Après l'inauguration, il y a eu tout un ensemble de brochures à signer. Notre recteur a signé beaucoup de brochures. Je dirais 5 ou 6 brochures. Notre recteur était parti à une réunion convoquée par la ministre, tous les présidents des conférences de toutes les provinces. Lui a traîné à Kinshasa jusqu'à présent pour voir si toutes les signatures ont été acquises. Et ce qui est déjà fait. Il nous a dit que du 20 au 30, une autre équipe viendra pour alors finaliser, c'est-à-dire remettre les clés et nous permettre d'ouvrir l'université pour le fonctionnement. Donc, on est à la fin de la chaîne, au processus. Bientôt, nous allons ouvrir l'université. L'année, dans le cadre du LMD, est organisée semestriellement. Le premier semestre a pris fin. Nous entamons bientôt le deuxième semestre. Nous voulons commencer le deuxième semestre sur le site.
Radio Capi lance cette semaine une série de reportages sur les nuisances sonores, notamment à Kinshasa et à Ituri. Dans la capitale de la RDC, le bruit s'impose comme un véritable défi urbain. Entre vitalité économique, activité religieuse et vie nocturne animée, les nuisances sonores rythment le quotidien des habitants, souvent au détriment de leur bien-être. Dans plusieurs communes, notamment Lemba, Bandalungwa et Lingwala, les journées commencent très tôt au son des cultes matinaux, des véhicules de publicité et des activités commerciales. La nuit, la musique des bars et autres manifestations prolongent cette ambiance sonore, transformant la ville en un espace où le repos devient rare. Nassa Tambo, reportage.
De nombreux habitants affirment que la situation est devenue difficile à supporter.
Les nuisances sonores affectent vraiment mon quotidien, surtout les véhicules de publicité pour la promotion de leurs produits.
Par exemple, dans notre avenue, on a plus de 5 églises. Et ces églises-là augmentent le volume de leur sonorisation abusivement. Il peut y avoir kilts de 17h à 21h passé, ça dérange.
Du côté de la mairie, le bourgmestre de la commune de Lingwala annonce des mesures pour réduire les nuisances sonores et prévient que les sanctions viseront le contrôle. Toutefois, l'application de ces mesures reste un défi majeur.
Il y a des nuisances sonores par-ci, par-là. On a déjà pris toutes les dispositions. Les endroits sont déjà identifiés. Nous connaissons les églises qui font des tapages. Et je pense que nous allons frapper tous les récalcitrants qui n'ont pas suivi les mots d'ordre de l'autorité municipale.
À Kinshasa, le véritable enjeu est de trouver un équilibre entre le dynamisme d'une ville en pleine effervescence et les droits fondamentaux des citoyens au repos. Car une ville dynamique ne doit pas seulement être vivante, elle doit aussi rester vivable.
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient, tire une ville à 20 km de la frontière avec Israël est endeuillée. La ville surnommée la Perle du Sud a été très touchée par les bombardements israéliens jusqu'aux dernières minutes qui ont précédé les cessez-le-feu jeudi soir. Le 16 avril, 6 immeubles résidentiels ont été complètement détruits sans aucun avertissement préalable à la population pour évacuer. Les bilans est d'au moins 13 morts, 35 blessés et 15 disparus.
L'invité.
Le directeur général de la Régie des eaux donne espoir à la population du Maniema de doubler la production pour permettre à cette population d'avoir accès facile à l'eau potable de la Régie des eaux dans la province du Maniema. David Chilumba, notre invité, s'entretient avec Florence Kizalunga.
David Chilumba, bonjour.
Bonjour.
Dans votre passage dans la province du Maniema, dans le cadre de la conférence sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau, qu'est-ce que Maniema peut espérer de vous, étant donné que la desserte en eau potable pose énormément de problèmes dans cette province?
La desserte en eau potable en RDC ne pose pas de problèmes seulement dans la province du Maniema, mais c'est un problème général de notre société, de notre pays. C'est un témoignage d'une accumulation des retards que nous avons depuis que le pays a accédé à l'indépendance, parce que tout simplement les infrastructures n'ont pas suivi le niveau de la croissance démographique. Donc il nous faut investir conséquemment et il nous faut planifier pour trouver de l'argent et exécuter les projets. Et donc nous sommes venus ici au Maniema d'abord pour apporter un soutien à la direction régionale dont la production est passée déjà de 1200 mètres cubes jour à 2400, et nous avons pris l'engagement déjà avant la fin de cette année de doubler encore cette production pour arriver à 5000 mètres cubes jour, ce qui serait déjà près de 5 fois plus que cette production a été avant que nous arrivions à la Régie des eaux. Et nous avions déjà au niveau de la direction générale planifié des études d'augmentation des capacités à travers le pays avec le support de nos partenaires au développement. Et donc la ville de Kindu est également inscrite dans ce grand programme. Nous allons commencer des études avec des plan directeur avec des études pour les nouvelles usines, y compris pour la ville de Kindu, où nous pensons construire une nouvelle usine de traitement d'eau potable et faire un réseau de distribution pour pas moins de 30 000 mètres cubes par jour, peut-être à l'échelle 2050, cela peut arriver à 50 000 mètres cubes qui seront exécutés en module pour nous rassurer que nous rencontrons la demande progressivement.
Comme vous parlez de mobilisation de ressources et dans les cas de la province du Maniema, concrètement, qu'est-ce que la Régie des eaux attend des autorités provinciales?
Moi, je ne veux pas parler au nom de la province du Maniema. Je salue d'ailleurs le gouverneur avec beaucoup de respect. Je voudrais dire tout simplement que nous, au niveau de la Régie des eaux, nous faisons ce que nous devons faire parce que notre périmètre opérationnel dans la province du Maniema couvre les grandes villes. Les milieux ruraux, c'est couvert par autre chose. Alors, dans notre périmètre opérationnel, nous travaillons en collaboration avec les autorités locales, les autorités nationales pour trouver les moyens, pour les mobiliser, pour exécuter les projets.
Vous êtes toujours plein du fait que les gouvernements congolais qui les grands partenaires de la régie des eaux n'honorent pas les factures de la régie des eaux. Est-ce que cette question est déjà résolue?
La question est générale, y compris ici au Maniema, où les entités provinciales, le gouvernement provincial, toutes les entités de l'État ne paient pas leurs factures d'eau. Ça commence par Kinshasa, ça va dans les provinces. C'est un problème de culture. Il nous faut changer de culture, parce que si les institutions de l'État ne payent pas, il est difficile que nous puissions toujours continuer à faire le forcing sur la maman qui vend par terre pour nouer les deux bouts de moi. Donc c'est une conversation citoyenne à avoir et nous avons sonné cette alarme depuis que nous sommes à la régie des eaux depuis 3 ans. Je suis content de dire qu'il y a quand même un petit mouvement, un petit changement de paradigme. Donc je salue les efforts du gouvernement central qui demande d'auditer le fichier des instances officielles et des ayants droit parce que nous allons élaguer d'abord de cette liste tout le monde qui ne mérite pas de recevoir de l'eau gratuitement.
Monsieur David, vous encouragez les enfants, les investisseurs du Maniement, les opérateurs économiques à beaucoup investir dans les secteurs de l'eau.
Mais les Congolais disent qu'ils ont de l'argent, beaucoup d'hommes d'affaires, y compris ici au Maniema, des multimillionnaires partout en RDC. Mais pourquoi les Congolais n'investissent pas dans l'eau? Pourtant, c'est un problème si crucial pour nos communautés. Donc, si vous avez de l'argent, l'État a libéralisé le secteur de l'eau. Venez travailler avec nous. Nous allons vous aider à résoudre les problèmes de vos communautés.
Monsieur le DG, est-ce que vous encouragez la population à utiliser de l'eau de la régie des eaux? Parce qu'il y a certains jusqu'à aujourd'hui qui ne font pas foi à l'eau de la régie des eaux.
Donc partout où je passe, je prends l'eau de la régie des eaux, je mets dans un verre et je bois pour vous montrer que l'eau de la régie des eaux, elle est bonne que l'eau de la bouteille, de très loin, parce que nous contrôlons la qualité à tout bout de champ. Tout ce que je demande à la population, c'est de protéger le réseau, parce que si on ne protège pas le réseau, on le casse, on crée des points de faiblesse sur le réseau, et des matières intrus peuvent entrer dans le réseau et commencer ainsi à salir, ou si vous voulez, à détériorer la qualité de l'eau.
Monsieur David Chilumba, je vous remercie.
Merci beaucoup.
C'était notre invité, le directeur général de la régie des eaux, David Chilumba, qui s'entretenait avec Florence Kizalunga. Et c'est par là que nous mettons un point final à ce journal préparé pour vous par Richard Junior Kamunga et mis en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.